Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Galère 88.4. Et aujourd'hui, on va faire une émission qui s'appelle l'émission Psychodébat, qui a pour objectif de dialoguer, d'échanger sur différents thèmes liés au bien-être. Et ça tombe bien parce que demain, c'est la journée internationale du bien-être, du bonheur. C'est une journée lancée pour les Nations Unies parce qu'on pense que le bonheur, c'est quand même c'est une politique mondiale qu'on pourrait s'occuper un peu plus. Pour ça, aujourd'hui, l'animateur, ça va être Bruno, qui va se présenter. Et en même temps, on va commencer tout de suite avec ces questions que je ne connais pas. Il voudra poser la question qui voudra. Et on va parler de bonheur. Et demain, on a d'ailleurs, on va vous parler aussi. Et vous êtes invité de venir à la Canebière. Et justement, on fait à 18h, de 18h à 19h30, on fait un psychodébat en présentiel. Donc, Bruno, la parole est à toi. J'attends tes questions pour commencer cette émission sur le bonheur.
Oui, bonjour Victor. Eh bien, écoute, je suis très content que tu m'aies invité à participer à cette émission à Radio Galère. Bien sûr, demain, c'est le bonheur. Déjà, donc, on va passer un bon moment ensemble, une petite heure. On va faire rêver les gens, parce que dans cette période un petit peu de morosité et de on va dire de vibrations négatives, je pense que c'est intéressant de faire un peu bouger les choses, faire rêver un peu les gens. Alors on va faire des petites choses. Je vais te poser des petites questions simples de façon à ce qu'on avance un petit peu sur ce sujet là. Je vais vite me présenter. Donc moi je m'appelle Bruno Kenney, on m'appelle beaucoup Aquila. Je suis le président fondateur d'une association qui s'appelle Citoyens du Monde, qui va avoir ses 15 ans dans 2-3 jours et qui œuvre sur la paix essentiellement et l'inclusion. Donc voilà. Alors maintenant, donc Victor, je vais te poser une première petite question. Il y a un pays dans le monde qui s'appelle le pays du bonheur. Est-ce que tu peux m'en parler? Tu sais lequel c'est?
Oui, c'est marqué dans notre communiqué justement, c'est le Bhoutan. C'est un pays dans lequel on a fait, au lieu du produit national brut, on a mis le prix du bonheur brut. Ça veut dire que dans laquelle il n'y a pas que l'économie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie. D'ailleurs, quand le produit national brut monte, c'est quand il y a beaucoup de catastrophes, d'ailleurs, dans les pays. Et là, on est dans notre concept qui est beaucoup plus large. C'est un concept comme une seule santé pour la terre, tout ça. C'est un petit peu lié au bonheur. Et on se rend compte que le bonheur, c'est très important pour gérer une politique mondiale. C'est très important aussi pour tout ça. Et on sait que le bonheur, c'est un peu la santé, c'est tout ça. Mais on parlera de... Donc oui, aujourd'hui, on est en pleine élection municipale. Dans quelques jours, on va voir les résultats du deuxième tour de l'élection municipale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui ont aujourd'hui un adjoint au maire lié au bonheur, au bien-être des citoyens. C'était toute une tâche assez importante.
Oui, je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir des gens qui s'occupent du bien-être, du bien-vivre, même plutôt des gens dans une municipalité. C'est essentiel. Alors, je vais te poser une petite question déjà personnelle. Bon, on se connaît depuis une quinzaine d'années, Victor. Alors, je connais un petit peu ta vie, donc je vais te donner une petite question qui est simple et compliquée en même temps. C'est quoi le bonheur pour toi?
Le bonheur, pour moi, c'est être bien avec les gens que j'aime. C'est être bien avec moi-même. C'est lié à l'amour, au fond. L'amour, pour moi, il y a trois valeurs, trois principes. C'est aimer soi-même, aimer l'autre et aimer les autres. C'est ça, pour moi, le bonheur. Et pour ça, c'est bonheur, pour moi, c'est être en accord avec mes principes, être en accord avec mon sens de vie qui s'est lutté pas que pour moi, pour la planète, pour Marseille, comme je vois les choses. Donc quand tu as un sens de vie, tu te sens bien avec toi-même. Amour de toi, amour de l'autre, amour des autres. Donc pour moi, le bonheur, c'est ça, c'est trouver un sens à sa vie et pas trahir ses principes. Essayer d'aller très loin dans ses principes. Donc le bonheur, c'est oui, c'est voir mes enfants qu'ils soient heureux ou que... dans des moments difficiles qu'ils les passent, qu'ils savent confronter, parce que c'est aussi le bonheur de faire face à qu'on ne peut pas tout régler, qu'on ne peut pas tout diriger et qu'on ne peut pas non plus pas comprendre que les malheurs des autres, les personnes toxiques ou les gens qui vont t'entourer, des fois ils vont agir sur ton bonheur, mais avec un petit peu de sagesse, tu arrives à comprendre, ils pensent comme ça, moi je pense différemment, on est deux êtres qui ont une pensée différente du bonheur.
Ça me fait penser, deux personnes qui pensent différents, ça me fait penser à une petite histoire qu'on m'a racontée il y a à peu près un an de ça. C'est deux amis qui sont ensemble, qui se connaissent très très bien, ils sont heureux, c'est la parfaite amitié. Et puis, depuis les années et des années, et puis au bout d'un moment, il y en a un qui commence à s'ennuyer. Alors il dit à l'autre, « Et dis donc, si on faisait la guerre pour changer ?» Et l'autre, il dit, mais c'est quoi la guerre? Bah, tu sais, la guerre, c'est quand on n'est pas d'accord, quand on se chamaille, etc. Et l'autre, il dit, mais quel est l'intérêt? Bah, c'est parce que là, on est bien, on est heureux. Et si on faisait la guerre? Alors l'autre, il, comme c'est vraiment son copain, lui dit, bah, écoute, pourquoi pas, on peut essayer. Allez, faisons la guerre. Mais je sais pas faire la guerre. Il dit, bah, écoute, c'est simple, tu vois, on va prendre ce caillou, là, cette pierre. Et puis, je vais dire, c'est à moi. Et toi, tu vas dire, non, c'est à moi. Et moi, je vais dire, non, c'est à moi. Et moi, tu vas répéter, non, c'est à toi. Et on va faire comme ça, et tu vas voir, ça va être la guerre. Et alors, l'autre, il dit, bon, bah, écoute, si vraiment tu veux ça, on fait ça. Alors, le premier prend la pierre et dit, c'est à moi. Une minute, deux minutes, cinq minutes, il n'y a rien qui se passe. Les deux partent ensemble, parce que l'autre a répondu, bah, si c'est à toi, t'as qu'à la garder.
Au fond, c'est joli ton histoire, parce qu'il y a une moralité pour moi. C'est la moralité qui la guerre, il faut deux pour la faire.
C'est ça.
Et au fond, c'est ça qui est beau dans ton histoire, parce que pour avoir de la guerre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lâche prise un petit peu à un moment venu. Et donc, c'est pour ça que je trouve que l'exemple, toi, ton l'exemple, mais le bonheur aussi, je dirais, pour moi, c'est des petites choses, parce que le bonheur, il peut changer dans toute ta vie. Le bonheur, il peut changer selon tes cultures. Le bonheur, il peut changer selon ton histoire. Par exemple, toi, tu racontes une histoire, je peux raconter une. Quand j'étais tout petit, par exemple, on n'avait pas beaucoup de sous, on n'était pas pauvre et pauvre, mais on n'est pas riche du tout. Et ma mère et mon père n'étaient plus avec nous. Et donc, mon frère et moi, j'avais 5 ans, lui, il avait 7. Et notre bonheur, et ma mère, comme on pouvait travailler, nous laissait chez des tantes et des grand-mères. Et notre bonheur, c'est marcher à côté dans la campagne et se mettre à côté d'une station de trains. Mmh. Et on regardait les trains. Et quand on était petit, on pensait aller très loin, très loin, très loin en regardant les trains. Ça veut dire qu'on n'avait pas grand-chose, mais j'avais mon frère à mon côté et j'avais moi-même que j'écoutais mon frère. Et mon frère, son rêve à cette époque-là, c'est voir comment on cherchait quelques centimes pour aller à la station prochaine. Et je trouvais très beau parce que ça m'a montré que ma vie, elle est toujours d'aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Donc, le bonheur qu'il y avait à cette époque-là, c'était un bonheur d'enfant, c'est le bonheur de l'amour de mon frère, et c'est en même temps, c'est le bonheur de croire à l'espoir, comme on dit. Quand on a d'espoir, on a du bonheur.
C'est marrant parce que quand tu racontes ça, ça m'a fait penser tout de suite, je me suis dit, ah, les vaches, quand elle regarde le train, elle devait être heureuse.
C'est vrai.
Alors oui, c'est marrant parce que tu as répondu à la question que j'avais prévue ensuite, qui était qu'est-ce qui t'a vraiment rendu heureux dans ta vie. Donc bon, je vais plutôt te poser une autre puisque
pardon de l'attraper ces questions, parce oui? que là tu touches un problème intéressant lié au bonheur. Quand on te dit qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux dans ta vie, quand on est dans le bonheur, il y a plein de moments qui sont rendus tellement heureux qu'ils sont presque tous dans la liste parade des choses. Les relations avec mon frère, ça peut être le moment que j'ai sorti de liberté quand j'étais dans la torture de Pinochet. Ça peut être plein de petites choses. Ça peut être quand ma mère, il m'achète un petit cadeau des pompiers parce qu'il n'y avait pas de cadeau. J'ai pleuré. Tous les gens avaient des cadeaux et moi, j'avais pas de cadeau. Il est parti chercher un petit camion de pompiers pour que je sois heureux. Donc, quand tu ajoutes tous ces moments de bonheur, ou même en France, quand j'ai eu la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite, je ne le voyais pas comme un ego, je le voyais plutôt comme une reconnaissance pour cet émigré qui arrivait en France, qui pouvait aller au-delà de toutes les aspirations. Donc, ces questions sont très belles parce qu'en même temps, tu as plein de choses, il n'y a pas une qui t'a rendu plus heureux pour quelqu'un qui aime, pour quelqu'un qui est heureux, Parce que le bonheur, c'est quelque chose de durable. Et le bien-être, les plaisirs, ça peut être très court.
Oui, c'est vrai. Alors, selon toi, qu'est-ce qui rend les gens heureux?
Là, ça dépend des gens. Je vais tourner une anecdote. On m'a essayé de parler beaucoup d'anecdotes aujourd'hui. Par exemple, il y a un grand photographe qui est connu partout, qui fait des photos dans la guerre, les missiles, les passe à côté, les passe là, il fait des photos. Lui, c'est le rend heureux, prendre des photos. Mais sur les malheurs, il y a une relativité. Quand il arrive chez lui à Paris, il a sa femme qui a eu un PV. Il se rend malheureux pendant toute la semaine, tous les jours, deux jours. Il était très triste parce qu'il était malheureux, donc il avait, on peut dire, moins de bonheur pour ses PV. Pourquoi il a eu ses PV? Et au fond, lui, quand il raconte, il dit tout est relatif. Parce que lui, son bonheur, c'était celui-là. Pour d'autres, c'était quelque chose d'éphémère pour toi. Et quand tu vas plus loin, quand tu es à la prison, quand tu es attendre la torture, par exemple, comment tu peux avoir un bonheur de ça? Oui, tu peux avoir un bonheur, voir une lumière. Et cette lumière, c'était ma fille qui avait 8 ans, 8 mois, 10 mois, et qui attendait que je sois vivant. Au moins, je me le disais. Donc, tu vois, le bonheur, il peut être très changeant, et il peut avoir beaucoup de bonheur qui sont quelque chose qui te donne de la... Et il y a aussi le bonheur présent d'être avec toi pour cette émission. On ne le fait pas pour n'importe quoi. On le fait pour transmettre.
Oui, oui, oui. Oui. C'est vraiment pour ça qu'on se rend compte, qu'on se connaît. C'est parce que... c'est une petite phrase que j'aime bien sortir, c'est que le bonheur se multiplie quand on le partage. Ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et de vivre avec des gens heureux, eh bien, ça rend heureux. Donc, là, je fais une petite parenthèse. Nous allons également, on vous donne un rendez-vous, cher public, au mois de mai, parce qu'on va organiser 15 jours pour la paix à Marseille. Pas pour la paix dans le monde, mais les 15 jours seront à Marseille. Voilà, une petite parenthèse. On va revenir sur les questions-réponses. Donc, le bonheur, est-ce que c'est quelque chose qu'on choisit?
Oui et non. Oui, en général, comme Othil a dit tout à l'heure, quand tu t'entoures de gens heureux, quand je vais dans tous ces lycéens que j'ai vus avec mes sciences d'éloquence, quand je viens aujourd'hui de faire une science d'éloquence par les rires avec des gens décédés à domicile, ton présent il est heureux, donc l'addition des présents, ça fait un présent heureux et de bonheur. Donc c'est pour ça que tu dis oui. Mais non, je te dirais, parce que pour rapport à ta question, si le bonheur, est-ce qu'il dure tout le temps? Malheureusement, quand on donne son cœur, quand on donne tout son cœur à quelque chose, à ta mère, à tes amis, à une lutte, évidemment, quand tu donnes le cœur, tu ne te mets pas des barrières, tu te lâches, tu donnes tout. Mais le problème, c'est que tu souffres beaucoup aussi. C'est un choix. C'est pour ça que tu parles de choix. Oui, j'ai fait le choix d'aimer fortement. Et mon choix aussi, c'est souffrir fortement pour cette absence et cette grand-mère qui est partie. Mais il y a une différence. J'ai fait aussi le choix de la résilience. Ça veut dire que je fais le choix d'aimer fortement, tout en sachant que je peux être trahi, que les choses peuvent tourner mal pour moi. Mais en même temps, quand la personne meurt, par exemple le cas de ma grand-mère c'était tout pour moi, quand elle meurt, évidemment j'étais dans une douleur terrible. J'ai pleuré, je me regardais dans la glace de la voiture et j'ai dit « Pourquoi tu pleures ?» J'ai pleuré parce qu'elle me faisait souffrir de savoir qu'elle était morte. Et ce qui me faisait souffrir, c'était pas ça. C'est que moi, j'étais en train de la tuer une deuxième fois dans ma tête. Et ce jour-là, j'ai décidé de garder à vie. Aujourd'hui, c'est une amie, c'est partie de mes amis qui sont morts, mais sont partie de mes noyaux. Donc oui, c'est aussi un problème de choix de pas souffrir, parce qu'on a besoin d'être fort pour pouvoir transmettre ces bonheurs de vie que tu dis. Quand on est enthousiaste, tu as envie de suivre. Quand tu n'es pas enthousiaste, non.
C'est sûr que les gens qui veulent réaliser des grandes choses doivent montrer l'exemple. Ce n'est pas en disant « fait comme ça » que ça marche, c'est en montrant comment on fait. Mais écoute, ça m'a aussi donné une idée par rapport à l'histoire de ta grand-mère. C'est que j'ai vu un film il y a 2-3 ans avec ma fille, un dessin animé. Et tout le temps que quelqu'un pense à toi, eh bien tu n'es pas mort. Donc c'est pour ça que quand on fait du bien, eh bien on reste dans l'image, dans l'imaginaire même des gens, et tout le temps que quelqu'un pense à nous, eh bien on est encore vivant en réalité.
C'est exactement, c'est une grande philosophie. Et c'est pour ça que les gens qui meurent, ils ne seront jamais morts tant que vous les oubliez plus.
C'est ça. Quand tout le temps qu'on n'oublie pas quelqu'un, il est toujours vivant. Alors, une autre petite question. Quelles sont les petites choses de la vie qui te donnent de la joie?
Ça, c'est très important ce que tu dis, parce qu'au fond, les bonheurs, indirectement, c'est lutte. Les malheurs, il faut se laisser aller. Il y a plein de raisons pourquoi être triste.
Oui.
Oui, parce qu'en regardant le monde actuel, les bombes par-ci, les bombes par-là, les extrêmes, tout ça, c'est qui ne correspond pas à une philosophie bienveillante ou d'amour, comme sont les religions, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, comme on peut dire, et trouver un chemin pour dire, voilà, comment je fais pour être... Donc, tu vas avoir des petites actions dans la journée, déjà, le matin quand tu te lèves. Ça commence par la méthode Coué. Mmh. Si tu te dis tout seul, quelle gueule j'ai, peut-être, pourquoi je m'élevais encore à faire ça, je vois les mêmes gens. Si je me mets dans les pensées positives, je vais pas m'élever bien. Mmh. Par contre, si je me regarde dans la glace et dis, allez hop, boum, je me vois moi-même, je me donne envie de croire aux choses et de faire des choses et aller jusqu'au bout des choses quand je peux. Donc, ça, c'est la première chose. Dire quelque chose, faire quelque chose, c'est important. Mmh. Pour être heureux. Après, qui je rencontre? Évidemment, je peux rencontrer plein de gens. Dans mon agenda, j'ai 4000 noms. Mais 4000 noms ne sont pas tous mes amis, ce sont des gens que je connais. Il y a une pyramide d'amis, une pyramide d'amour, une pyramide de tendresse. Il y a cette pyramide qui te construit toi et tu essaies de pas trop fréquenter les gens trop malheureux,
ouais,
ou les gens trop contraires à tes principes. Ça veut dire, ça veut pas dire que tu élimines les gens, que tu ne veux pas avec les gens, sinon que tu réduis. Pareil, si je vais aider quelqu'un, je peux aider 3 déprimés, 2 personnes, je peux aider des gens, mais il arrive un moment que je ne suis pas capable d'aider tout le monde. Donc, pour me renforcer, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure dans ma formation, j'ai besoin des fois marcher 2 kilomètres seul pour me détendre. Il y a un autre ami qui me disait, j'ai besoin de courir une fois par semaine, sinon je suis nerveuse. Donc on connaît sa physique, on connaît sa psychologie, et en fonction de ça, tu rencontres des gens. Et c'est pour ça que j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'enfants, beaucoup de lycéens, beaucoup de jeunes, et je travaille beaucoup avec les jeunes, et quelque part, quand tu travailles avec ces gens-là, quand tu travailles avec des gens qui ont besoin aussi de toi, de ton expérience, tu es heureux, parce que tu es utile.
Oui, de toute façon, les jeunes ont quelque chose qu'on perd, parce qu'ils ont toujours ce rêve constamment dans eux, chez eux. On ne leur a pas appris que c'était impossible et ils arrivent à rêver. Et nous, on se met des barrières parce que notre éducation nous empêche de voir, de rêver grand. J'ai une amie qui
approche-toi au micro, par exemple.
J'ai une amie comorienne qui m'a dit, Bruno, toi, tu rêves comme les Comoriens, tu rêves grand. Alors que les Français, ils veulent une petite maison, une petite femme, un petit boulot. Et moi, je peux te dire que moi, je rêve grand et je suis heureux parce que quand on rêve grand, eh bien, on arrive à construire grand. Et donc, même si on fait des petites choses, du coup, on voit que ça marche. Donc,
peut-être un mot sur rêver grand. Mm. Et il y a une chose qui, pour moi, c'est très importante. Et le mot, pour être heureux, je l'oubliais de te dire tout à l'heure, il faut être rêveur. Mm. On n'est jamais heureux, tant heureux de ce qu'on a fait, comme ce qu'on n'a pas fait, qu'on projette de faire.
Oui.
Et j'ai jamais été aussi heureux quand j'ai vu le président de la République chilienne à l'époque, qui nous faisait rêver les jeunes. Et c'est ça qui manque, faire rêver, mais sans haine, sans, avec, oui, on va faire des choses et les faire, pas faire des promesses sans
rien.
Donc, ça, ce que tu viens de dire, c'est très important pour moi, c'est rêver. Mais rêver grand, ça ne veut pas dire grand au niveau économique. J'ai compris comme ça pour toi, surtout que tu travailles sur la paix. Rêver grand, c'est rêver d'un monde meilleur, contribuer un petit peu. Rêver grand, c'est pas être peut-être tout simplement dire cette année, je vais accomplir ça et ça. Et c'est pour ça que c'est très important pour notre bonheur, les objectifs. Tu dois avoir des objectifs clairs. Oui. Quand tu as des objectifs clairs qui peuvent changer toutes les semaines, mais tu as des objectifs.
Moi, effectivement, c'est comme ça que je travaille. Moi, j'ai ma vision à 20 ans. Je sais exactement où je veux aller et je prends les chemins, je sais la direction. Et un petit peu comme quand quelqu'un part en vacances, moi, ce que je m'aperçois, c'est que beaucoup de gens subissent leur vie au lieu de la vivre pleinement. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, eh bien, ils partent à droite, ils changent de boulot, ils vont là, et puis pour finir, ils sont jamais heureux parce qu'ils ne se réalisent pas. Alors que quand on a une direction, un petit peu, c'est comme quand, si on partait en vacances, admettons en Corse, eh bien, on sait ce qu'il faut mettre dans la valise, et donc on va savoir et on va rendre heureux parce que cette valise, on va la remplir, et plus elle sera pleine, plus on sera prêt des vacances. Alors que quand on part un petit peu n'importe où, bon, je vais partir en vacances, il y a pas de date, et on peut pas être heureux si on sait pas où on va.
On a la chance qu'arrive Virginie et
Anne-Laure.
On a deux personnes de plus qui vont poser des questions et ils vont aussi faire des commentaires sur les bonheurs. On a déjà commencé, je ne sais pas si vous avez entendu, il a posé déjà pas mal de questions. Donc on continue, vos questions, vos réflexions.
Eh bien, écoutez, bonjour les filles. Donc ça y est, on est enfin en parité.
Voilà,
parce qu'on se trouvait un petit peu...
On est là en force.
Voilà, voilà. Mais écoutez, soyez les bienvenus. Donc... vous êtes des amis de Victor, donc je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. On est donc en train de parler du bonheur. Alors, on va essayer de te poser une petite question. Je ne sais pas si tu veux poser les questions ou y répondre.
Les deux.
Moi, je prends en route, alors je respecte ce que tu me dis de faire. Allez, tu me poses une question sur le bonheur, ça me lancera.
Allez, alors on va passer la petite question toute bête. Hein. C'est quoi le bonheur pour toi ?
C'est un mot qui fait peur autant qu'il fait envie. C'est magnifique le bonheur. Est-ce qu'on y est? Moi, c'est pour moi, c'est une question. Le bonheur. Est-ce qu'on y a droit? C'est quand le bonheur? Est-ce que c'est tous les jours? Peut-être un idéal et en même temps, je crois que c'est quelque chose. C'est un sentiment également, une émotion que j'ai la chance de ressentir, je crois, assez souvent, de manière assez sereine. Et toi, Anne-Laure?
Moi, je pense que c'est quelque chose de très éphémère qui peut venir sans qu'on le veuille. Ou être recherché profondément et c'est parfois la chance qui peut nous l'apporter.
Peut-être je voudrais réagir à ces deux questions. Et là, il a dit Virginie que j'aime beaucoup, que partie du bonheur de mes amis, des amis que j'ai. Et ça, c'est important, c'est se sentir aimé et aimer les gens, comme j'avais dit, comme partie de base du bonheur. Mais des fois, quand on aime trop, on se fait avoir aussi parce qu'on est dans les malheurs pour plein de choses. Donc, et toi, tu as dit quelque chose qu'on a le droit. Est-ce que tu sais pas si on a le droit ou pas? Moi, je pense que ça pose, pour moi, les questions, ça pose pas comme ça. Je me suis dit, mon chemin de vie, c'est être dans le bonheur. Et le bonheur, c'est quelque chose de durable. À l'intérieur de ce bonheur, à l'intérieur de cet amour, j'ai des moments de tristesse, des moments de douleur, mais je suis quand même dans l'alliance du bonheur. Je rencontre des gens qui me sourient à la vie et qui sourient à la vie, donc je suis dans une conglomération qui me donne, m'aide à maintenir cette cape de bonheur. Les rêves, comme tu as dit tout à l'heure, mais on a le droit, oui, on a le droit, c'est nous qu'on décide, mais c'est, tout à l'heure, tu n'étais pas là, mais je vais te dire une chose qui est pour moi importante. Par exemple, j'ai décidé aimer les autres, aimer l'autre, aimer les autres, et s'aimer soi-même. Mais dans cet amour, ils m'ont posé la question tout à l'heure, j'ai fait une formation sur la prise de parole par le rire, et un jeune, il me pose la question, il me dit, comment tu fais des barrières pour pouvoir pas souffrir, pour pas souffrir? Donc, j'ai dit, simplement, quand j'aime, je donne aucune barrière. J'y vais. Mais je sais que je vais souffrir, comme la mort de ma grand-mère, je sais que je vais souffrir. Mais je préfère vivre l'amour pleinement, souffrir pleinement, mais il y a une grosse différence, c'est pour ça que je reviens sur toi, la grosse différence, c'est que j'ai décidé de jamais souffrir longtemps, la résilience. Ça veut dire que je souffre pour ma grand-mère, je ne l'oublie plus, donc il existe, donc je ne souffre plus pour elle, donc je réagis à tout type de malheur de façon très rapide. Et en même temps, au départ, j'ai fait le choix de m'éloigner des personnes trop toxiques et des personnes entre guillemets méchantes. Donc c'est toi qui as le droit d'être. Et est-ce que tu peux l'avoir tous les jours? Oui, le bonheur c'est un sentiment durable. Après, les plaisirs, non. Tu peux avoir des plaisirs qui sont instantanés, qui sont d'une semaine, d'un jour, tu connais quelqu'un, tu es plein de plaisirs, mais ton bonheur c'est toi qui définis ton sens de vie. Et quand définit un sens de vie,
on ne peut jamais s'éloigner trop longtemps.
Voilà.
Du chemin.
Exactement.
Et tu arrives
à avoir un bonheur. Mettre bonheur, c'est aussi souffrir pour la mort de quelqu'un parce qu'il t'a un cœur quand même. Ou la séparation avec quelqu'un qui t'a aimé. Donc souffrir, c'est partie du bonheur.
Complètement souffrir. Tripalien. Ça fait partie
pas
du bonheur
temps.
Inévitable.
Le bonheur, c'est être résilient.
Oui. Résilience, c'est très, très beau. C'est une habitude qu'on prend.
Et Akila, j'ai envie de te présenter un peu plus en détail Anne-Laure, que tu ne connais pas encore.
Et voilà, ça va venir.
C'est mon amie aussi, donc voilà. Plusieurs, voilà. Il y a de l'amitié autour de cette table.
C'est la bande du bonheur.
La bande du bonheur. Et Anne-Laure, elle va se présenter toute seule aussi, parce que je pense qu'elle sait faire. Mais elle est infirmière de profession. Donc, pour elle, le bonheur, c'est aussi le bonheur en famille, j'imagine. Mais dans son travail, dans l'exercice de ses fonctions, j'aimerais savoir quelle est ta définition, Anne-Laure, du bonheur. Est-ce que c'est important à l'hôpital, en étant infirmière, d'avoir une notion du bonheur des patients, des gens qui viennent ici, et comment faire pour gérer avec eux ?
Alors effectivement, l'hôpital, c'est un milieu de souffrance, essentiellement, hein, sans parler des accouchements heureux, mais sinon, effectivement, il y a beaucoup de difficultés, de douleurs, et c'est un univers assez sombre. Moi, mon travail, c'est effectivement de soigner les gens, de traiter des maladies, mais en apportant effectivement un peu de joie, un peu de douceur, d'humour dans ces moments qui peuvent être parfois très tragiques, voire mortifères, hein. Accompagner des gens à mourir, accompagner une famille dans la douleur d'un enfant perdu. Mais j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui justement en arrivant tout près de la mort me disaient qu'ils n'avaient pas vraiment vécu, qu'ils avaient eu beau avoir beaucoup d'argent, des maisons partout, n'avaient pas vraiment profité de leur famille n'avaient pas suffisamment profité de la vie.
Oui, souvent les gens disent qu'il y a plus de choses qu'ils regrettent de ne pas avoir fait que des choses qu'ils ont fait.
Ouais. C'est ce qu'ils vont voir. Ouais.
Peut-être ouais. Un mot pour l'infirmière qui est, que j'ai beaucoup de liens avec les infirmières, parce que dans le bonheur, il y a une chose qui est commune à tout le monde, le bonheur d'avoir une bonne santé, psychologique et physique. Et je peux vous dire aussi, aujourd'hui, avec les avancées de la technologie ou de la médecine, bien souvent, tu as le bonheur de croire que tu vas mourir et le bonheur de renaître.
De ressusciter.
Parce que tu crois, quand tu as un petit bobo, les hommes ils vont crier, ils vont dire plein de choses, et tout à coup, tu crois que tu vas mourir, et grâce à l'hôpital, grâce à les avancées, tout à coup, tu crois que tu es mort, et aujourd'hui, tu es vivant. Tu crois que tu es mort parce que tu ne connais pas. Donc, j'ai dit par là que la santé, c'est une des choses qui c'est très compliqué. Là, je viens de faire une formation justement à des gens qui s'occupent des fins de vie, qui s'occupent des Alzheimer, qui s'occupent de tout ça. C'est très, très dur. Mais derrière toutes ces souffrances, il y a le bonheur d'être utile à ces gens-là. Et ça, c'est un bonheur. Ils gagnent très mal leur vie. L'infirmière un peu plus. Tu te parles d'aide à domicile.
Oui,
il gagne encore plus mal son vie. Mais je peux dire une chose, j'ai vu beaucoup de bonheur d'être utile. Et j'ai des copains qui gagnent 10 000, 15 000 euros, certains, paf.
Bien sûr.
Et ça n'a envie de vivre. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas beaucoup de fois que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est bien d'avoir un petit peu quand même.
Effectivement. Ça dépend des pays, mais effectivement... Ça peut y contribuer.
Je vais vous lancer pour prendre un petit peu de plus de plaisir. Je vais vous lancer une petite question. Alors, j'en ai deux préparées. Il y en a une qui me fait rire à chaque fois que je la lis, donc je la garderai pour après. On va commencer par une petite plus simple. Alors, je ne sais pas, je pense à tout le monde. Si le bonheur avait une odeur, ce serait quoi ? Allez, on commence par toi, Anne-Laure.
L'odeur de la mer.
Et toi ?
J'ai pensé au chocolat, mais je pense que c'est parce que j'ai une petite je suis un petit peu allergique au cacao. Ça me fait des boutons. C'est pas une grosse allergie mortifère comme tu dis, mais je pense que du coup l'odeur du chocolat chaud, quand c'est un peu interdit parfois, ça donne envie. Alors c'est peut-être plus le plaisir que le bonheur, je vais réfléchir.
Voilà, je vais vous répondre à ces questions, mais je vais élargir un petit peu la chose pour une raison très simple. Nous avons 5 sens. Regardez, il y a des gens qui sont capables de se mettre un paysage, ils étaient dans l'orgasme cosmique de la vie, parce que tu es heureux. Il y a d'autres qui arrivent à penser quelque chose de négatif et peut-être s'est jeté dans le truc. Donc déjà, il y a le regarder. Il y a tout ce qui est aussi lui, tout ce qui est oreille, c'est important. Tout ce qui est entendre, c'est très important parce qu'une simple chanson, la cucaracha, va me faire penser au Chili. Donc, il va m'attacher à un ancrage qui s'appelle la PNL, un ancrage positif. Toi, tu parles des odeurs. Les odeurs, les saveurs, les odeurs, tout ça, il est, vous savez que si, quand on a eu le Covid, les gens perdaient le saveur et l'odeur, on était perdus. Mais on n'était pas perdus parce que toute notre vie, quand je mange une cassuela, je pense à ma grand-mère. Quand je mange la vanille, je pense à ma mère. Donc, tu es imprégné d'une histoire gustative des sens. Et ces sens-là sont très importants pour notre bonheur. Et c'est à toi. Des fois, moi, quand je vais à un restaurant, qui voulait quoi? Des boules vanille. Allez, on sait, je vais manger ma grand-mère. Je dis, je vais manger pour penser à ma grand-mère. Donc, vous voyez comment... Et si tu gères ces 5 sens, les toucher aussi... vous donne, juste pour finir, j'étais au Chili. Après d'avoir été torturé, je suis venu 50 ans après l'endroit où j'étais torturé. De toucher l'endroit où j'étais torturé, il y a plein d'images qui sont revenues, des cris des femmes qui étaient violées, tout ça, parce que j'ai touché. Donc, ces 5 sens sont directement liés à notre bonheur, selon moi.
Ça, c'est, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, et je pense qu'il y a aussi la dimension mémoire. Le bonheur, il est beaucoup dans la mémoire de ce qu'on peut, les souvenirs qu'on peut tout de suite appeler, parce que peut-être on a un moment de tristesse dans une semaine ou une semaine un petit peu plus neutre, un peu plus vide. On peut penser à des endroits où on est allé qui nous ont fait plaisir, des personnes qu'on aime qui sont pas sous nos yeux mais qu'on a aimé, des grands-parents, des amis qu'on ne voit plus. Pour moi, c'est beaucoup la musique. Je pense que c'est le sens qui est le plus développé chez moi, et je ne dois pas être la seule. Anne-Laure aussi, parce qu'on fait de la musique ensemble. En termes de bonheur, c'est très important les sons de notre enfance ou même ceux qu'on a appris à aimer en grandissant.
Juste pour aller dans votre sens, la musique, il y a la musicothérapie qui a été développée à Marseille, et la musique, c'est un des choses au niveau français, comme on sent dans les hit parades, des choses qui apportent le bonheur. Chacun de nous, on a des musiques, mais la musique, il y a même des sciences et des musicothérapies.
Et toi, qui l'as, ton odeur, tu l'as pas dite?
Alors, mon odeur, j'ai pas dit. Moi, je pense que c'est du pain croustillant. Voilà, moi, c'est le pain croustillant. Et alors, on va peut-être parler, je sais pas, quand est-ce que c'est. On parle de musique.
Qui peut passer là.
Voilà. Donc, on parle de musique, donc
la
on va
pause,
mettre un petit morceau de musique.
On fait la pause pour s'organiser aussi.
Voilà, merci.
Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais... Y'a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux.
J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
Eh bien oui, il est là et nous aussi. On revient, on reprend l'antenne. Merci.
Il est parti le bonheur.
Il est parti, mais non, non, non. Il est toujours là. Moi, je dis souvent que la paix c'est le chemin pour atteindre le bonheur. Qu'en penses-tu, Victor?
D'ailleurs, ce qui était dit sur la paix dans les Nations Unies quand on a fait la Journée mondiale du bonheur. On a pensé à la paix. On a pensé à un monde durable, à un monde équitable, à un monde généreux. Et c'est ça qui a eu l'idée de parler du bonheur. Du bonheur, pas seulement le côté économique, pas seulement le côté santé, mais le côté santé psychologique. Aujourd'hui, c'est un grand problème, aujourd'hui, même en France. Donc, oui, je dirais que le bonheur te peut amener à tout. Mais pour aller vers le bonheur, il y a un chemin à faire. Il y a un gros problème qu'on pourra parler tout à l'heure. Quel est le chemin?
La question, c'est sur la paix. Tu as raison de poser la question, mais je pense qu'il faut qu'on ait des outils pour la paix. Tu parlais de santé psychologique, santé psychique. Parfois, on n'a pas les mots, on ne sait pas faire les phrases pour communiquer avec l'autre, pour faire en sorte que la paix soit conservée, soit émerge. C'est vraiment difficile, moi, je trouve, aujourd'hui, de discuter avec les gens. Il y a les textos. Il y a le numéro. Alors dans les textos, les émotions ne passent pas. Alors, on essaye de mettre des smileys. Ça ressemble à rien. On ne sait pas. Non, c'est. Je trouve ça compliqué aujourd'hui de conserver un niveau de paix dans le dialogue. On le voit. Non. Il y a la campagne. Il y a tout ça. On voit que des fois il y a des invectives, il y a des insultes, des méchancetés. Rester sur la paix pour valoriser, pour être dans le bonheur commun de tous, c'est pas chose facile.
C'est un apprentissage.
Qui a des outils ici? Toi, tu parles bien dans tes textos à tout le monde?
J'évite d'envoyer des textos, ça peut être mal compris. Je préfère voir les gens en vrai, avoir des vraies discussions, plutôt que des relations par téléphone.
Vous savez, ça me fait...
être plus proche de la vérité.
La paix me fait penser un petit peu à la lutte pour la Terre, les COP mondiales, tout ça. Et je pense qu'il y a des principes à respecter. Il y a des principes qui sont de non-violence.
Oui.
Quand tu dis non-violence, évidemment, ça implique paix. Quand on dit non-violent, c'est que tu l'appliques à toi-même. Mais ce n'est pas parce qu'un jour tu es violent, entre guillemets, tu n'es pas.
Non. Définitivement violent.
Tu n'es pas définitivement violent. Mmh. Et après, il y a vers les autres, quel regard tu as, comment j'ai fait au niveau mondial pour que les choses s'arrangent. On se rend compte qu'au Chili, par exemple, il y a 1 million de Vénézuéliens qui arrivent, qui sont tous plutôt des gens qu'on va dire de l'Amérique latine, tout le monde parle espagnol, mais ils sont pauvres. Donc la similitude avec Marseille, c'est la même chose, c'est la pauvreté qui crée les problèmes, et pas des fois les religions, pas des fois non plus la richesse. Et ce que je veux dire par là, pour avoir la paix, il faut commencer par chaque acte quotidien, au mieux que tu peux, parce que ça n'existe pas les choses absolues, et créer une certaine bienveillance. Et chaque fois que quelqu'un met en conflit, il a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il répète pour eux, pour qu'il y ait une guerre, pour qu'il y ait la violence, il faut 2 personnes. Donc si quelqu'un se retire de ces violences, il ne peut pas se bagarrer contre personne.
Je voulais prendre comme ça parce que depuis tout à l'heure, ça me fait rigoler plein de choses. Je passais un bon moment. Je pensais, quand on parle de la paix, c'est un petit mot de Coluche, notre regretté Coluche qui disait aux gardiens de la paix, au lieu de la garder, la paix, vous ferez mieux nous la foutre. C'était un petit mot comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut que l'on dise plus souvent le mot « je t'aime ». Je crois que quand on dit « je t'aime », on ne peut pas commencer une guerre en disant « je t'aime ». Moi, souvent, je fais... C'est peut-être ma vision de la puissance des mots. C'est que souvent, je dis aux gens « est-ce que vous connaissez la différence ? Pourquoi il y a beaucoup plus de bagarres dans le football que dans le rugby ?» Et les gens me disent « je ne sais pas ».
La troisième mi-temps ? Non.
Oui, c'est un petit peu ça. Mais c'est simplement de la sémantique. C'est que quand Marseille joue au football... Il joue contre Paris et au rugby, quand Toulon joue au rugby, il joue avec Toulouse. Et ce fait de jouer avec quelqu'un ou de jouer contre quelqu'un, je pense que ça déclenche plus facilement des animosités, des heurts. Donc rien que le fait de bien poser les mots dans une conversation, etc. C'est pour ça que le français est une langue très très riche. Ça a été créé pour ça. Je dis un petit bonjour à la Maison de la Francophonie, avec qui on fait cet événement demain sur la Canebière au 9 Lacanebière, dans un restaurant qui s'appelle le Palais 1890. On fait un psychodébat avec toi.
C'est juste en face, à peu
1860, le Palais.
1860, je me suis trompé de 30 ans. Je suis toujours en avance.
Sur Lacanebière, demain, psychodébat.
Voilà.
Le bonheur, c'est quoi ? Animé par Victor Hugo Espinosa.
Et psychodébat, pour nous, quand j'ai créé ça, quand j'ai créé l'idée du psychodébat, moi, c'est un peu une histoire, parce que tu parlais des mots, j'ai fait le lien. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé qu'avec des mots-clés. Toujours les mots-clés pour rapport au diaporama des enfants, pour rapport à la jeunesse, pour rapport à tout. J'ai fait des nuages de mots, des créativités individuelles, créativités collectives. Et finalement, je travaille beaucoup avec les mots qui ont un sens. Et les mots, comme on sait tous, ils cachent des mots qui nous font souffrir. Donc, l'idée de tout ça, si tu veux, pour moi, dans le bonheur, quand tu vas aller vers le bonheur, peut-être aussi apprendre à... C'est le cas des psychodébats et des codébats, parce qu'une journaliste m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi je faisais les psychodébats? J'ai dit, dans cette société qui est triste, qui est angoissée, il manque beaucoup de dialogue, de communication entre eux. Et la parole, c'est une des thérapies et une des façons aussi de mettre... nos différences, mais pas pour convaincre l'autre, sinon pour entendre ce qu'il dit l'autre, que c'est pas la même chose.
Et en quoi ça consiste un psychodébat? Tu peux nous expliquer en quelques mots?
Quand j'ai créé ça, au fond, c'était, je me suis dit, je vais faire ce que je faisais à la fac, que je faisais partout, au lieu de faire des cours petit A, tu te grattes la tête, petit V, tu fais comme ça, et faire des trucs trop structurés, je suis parti sur un truc qui est des conférences immersives. Savez que quoi immersive? Savez que les gens, c'est eux qui conduisent. C'est cours que je viens de faire aujourd'hui, une formation. C'est eux, pendant 7 heures, qui ont dirigé toute la chose. Je n'ai pas fait, moi, une formation. Et comme on a fait, avec les mots-clés de chacun, avec les souffrances de chacun, on les a menés à des solutions ensemble. Et le plus important, presque moi, je suis le chef d'orchestre de eux. Et les gens, ils vont partir avec 80% de Virginie, 60% de toi, ou ça, chacun s'est fait sa propre acceptation. Donc, un psychodébat, c'est ça.
C'est une psychothérapie à plusieurs sur deux heures.
C'est pas une psychothérapie, c'est une dynamique de groupe.
Dynamique de groupe.
Parce que je ne crois pas trop à cette psychothérapie, parce que j'utiliserai d'autres. C'est une dynamique de groupe qui permet à toi de me dire, ah tiens, il y a Dorothée, il y a Paul, il y a quelqu'un qui t'a donné une idée et toi tu l'acceptes. Parce que pour changer et pour aller vers un monde meilleur, il faut que tu acceptes qu'on ne t'impose pas une idée. Mmh. Donc c'est ça pour moi le bonheur. Le bonheur, tu dois aller vers des choses mais qui te correspondent. Et une fois que tu y vas, tu vas. C'est ça un peu l'idée de cette chose.
Il faut être capable de l'ouverture aussi.
Oui, c'est ça, c'est d'écouter.
Avoir envie d'écouter les autres. De confronter des avis et de par la même occasion de pouvoir changer, évoluer.
Il ne faut pas être susceptible.
Et apprendre de l'autre.
Oui, ne pas toujours vouloir avoir raison.
Oui.
Parce que quand on a tort, il faut le reconnaître.
Je ne sais pas si vous avez lu les 4 accords Toltec.
Ah ben oui.
Bon, dans les 4 accords Toltec, on fait pour son mieux. Tu ne vas pas être d'accord avec tout le monde. Mais demain, il y a des gens qui vont dire les bonheurs, c'est ça, les bonheurs, c'est ça. J'ai pas de jugement à faire pour rapport à ce qu'ils disent, je les écoute seulement. Et ça, déjà, je me suis rendu compte que les gens sont écoutés, que les gens sont contents. Une fois que j'avais fait une animation d'éloquence dans Diderot, par exemple, ils m'ont dit, monsieur, on est trop contents. Pourquoi? Je croyais qu'ils étaient contents pour l'animation, mais c'est la première fois que mes élèves m'écoutent, que les autres camarades m'écoutent, et on s'écoute entre nous, on s'écoute jamais. Et là, on s'écoute. Et c'est ça, la technique qui a que les gens apprennent à parler entre eux avec leur langage, avec leur façon de faire, sans jugement. Et après, chacun y parle avec ce qu'il pense l'autre, sans besoin d'avoir gagné.
Et est-ce que être dans l'écoute, tout ce qu'on est en train de dire, ça veut dire finalement faire un effort vers le bonheur? Est-ce qu'il faut faire un effort? Est-ce qu'on est prêt à faire un effort aujourd'hui, demain, la semaine prochaine?
C'est une gymnastique de l'esprit.
Ça dépend de qui. Si être à l'écoute, par exemple, des politiques, c'est très dur. Être à l'écoute, par exemple, de ta fille, tu vas être à l'écoute parce que tu as envie d'écouter.
Pas tous les jours.
Oui, mais il y a des jours que tu as envie d'écouter, tu l'aimes, donc le fait que tu l'aimes, ça t'oblige à toi, à même si tu souffres, tu as peur de tout ça, mais tu es à l'écoute. Il y a des gens qui presque il faut pas être à l'écoute parce qu'ils sont déjà toxiques, ils vont te ronger ton esprit et ça servira à rien. Et c'est là qu'était un choix de ton bonheur.
Et je suis d'accord avec Akila sur une chose, quand je dis je t'aime à ma fille, je le dis pour qu'elle l'entende, qu'elle le sente, j'espère, mais je le dis aussi pour moi, c'est
bien
vrai.
Bien sûr.
Ça me rappelle quelle est la relation qui nous lie.
C'est ça. Mais ce qu'il faut réussir, c'est à dire à d'autres personnes que le lien familial, parce qu'on a trop peur de dire déjà, moi je suis d'une famille où on dit pas je t'aime dans la famille,
mais
donc
non plus,
donc c'est très difficile. Donc moi j'apprends, mais je suis en train d'apprendre à dire je t'aime aussi parce qu'il y a l'amour amical et ça c'est très dur de passer cette frontière. Alors, quand on sait déjà pas le dire dans la famille, mais c'est vrai que on ne peut que accepter une personne qui te dit je t'aime. Alors, sauf si on a l'esprit un peu mal tourné, mais disons, il y a vraiment des mots positifs qu'il faut faire souvent, et les mots sont des vibrations. Alors là, je vais poser une petite question, je ne sais pas si tu connais. Est-ce que tu sais ce que c'est que le OM chanting?
Le home.
Oui, voilà, c'est ça, le home.
Tu parles à des chanteuses, Akila.
Oui, voilà. Donc ça, c'est
attention,
elle a dit
expert.
Qu'elle était bouddhiste.
Non, après, moi, je voulais bien rebondir, c'est que vous parlez beaucoup du bonheur en collectivité. Mmh. Alors moi, qui travaille beaucoup avec les autres, être très empathique, à donner beaucoup de ma personne, justement, pour améliorer la vie des autres, j'ai aussi appris avec les années à m'aimer moi-même. Et en fait, c'était beaucoup plus difficile de trouver des petits bonheurs seuls que de faire partager en fait la joie ou
on confirme.
Je te dis ça.
Mais Victor, regarde, Victor, maintenant, s'aime. Victor, est-ce que tu t'aimes?
Ah oui. Ah, mais par exemple,
j'adore la réponse.
Par exemple, de dire. Là, par exemple, commencer à quand on parle. Beaucoup de fois, les jeunes, ils vont te dire, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Tu n'as pas été d'accord.
Oui.
Je te dis quelque chose, tu dis quelque chose, on n'a pas besoin d'être d'accord. Par contre, je peux dire, je suis en synchronisation avec toi sur cet aspect-là. Ça veut dire qu'on n'est pas, je ne donne pas l'accord de ce que tu dis. Je dis, je suis en commun accord avec toi, que ce n'est pas la même chose. C'est les mots qui vont ajouter, qui vont te permettre de dire quelque chose. Mais quand il dit, toi, par exemple, j'ai appris à m'aimer. Ou sea, je commence à lutter pour m'aimer. Et le problème, c'est que s'aimer, comme on disait ce matin, ça commence le matin. Tu suis les 8 heures, tu te lèves le matin. Si tu fais la gueule déjà devant ta glace à toi-même, c'est foutu. Par contre, si tu te vois, tu dis, ah ouais, je suis bien, on va faire ça aujourd'hui, je vais faire ça. Mais pas dans la boulimie de faire des choses, sinon que, parce que tu as envie de faire cette émission.
Et puis c'est aussi prendre conscience de ce qu'il y a autour. C'est oui. Entendre un oiseau, voir un nuage qui cache le soleil, un arbre qui est froissé par le vent. Ça peut être des petits bonheurs de voir aussi la nature qui nous entoure.
Ce qui t'est dit, c'est à quoi ça me fait penser à quelque chose, parce que c'est t'as tout à fait raison, mais c'est un besoin qu'on a, on sait quels sont les besoins. Mais je me rappelle qu'il était avec un prof à la fac qui nous amenait à marcher, tout le monde marchait comme on marchait, tout à coup, arrêtez-vous. On s'est arrêté, fermez les yeux. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il les prend? Fermez les yeux. Il me dit, qu'est-ce que vous entendez? Entendez un petit oiseau. Il nous a appris à ouvrir les oreilles. Mm-hmm. Après, les yeux, qu'est-ce que vous voyez ça? Les odeurs, ils commençaient, sur les cinq sens que tu dis, commençaient à nous dire qu'on est en train de courir tout le temps et on ne se donne pas le temps de temps en temps de s'arrêter à l'instant T et vivre ce présent d'une façon merveilleuse.
Sortir de la routine. Le bonheur, pour moi, ça me faisait penser à la mer, c'est-à-dire la voir sans arrêt faire du bruit, sentir son odeur, toucher le sable, voir la luminosité, même en fermant les yeux, de voyager à travers le bruit des vagues.
Ça va avec. Est-ce que tu nous lirais quelques lignes du poème que tu as mis de côté? Je ne sais pas si on a le temps de le lire en entier, mais peut-être un extrait.
Ça prend 2 heures, c'est tout.
Voilà, 2 heures. Le bonheur dans le poème.
On n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin. Donc,
c'est pour ça que je pose la question.
Minutes.
On a peut-être 3 minutes pour parler. Le poème d'Anne-Laure. C'est un poème de qui? Comment l'as-tu sélectionné?
D'Esther Granek. Le bonheur. Dans le château de mon enfance, fait de nuages et d'espérance, dans ce taudis où je suis né, où j'ai eu faim sans murmurer, où s'engouffraient les vents mauvais et s'étirait l'aube glacée, où les jours étaient des années, je possédais sans le savoir encore l'immense don de croire que le bonheur est quelque part. Dans la chambre de ma jeunesse, remplie d'amour et de promesses, de mes idées, de mes projets, de mes vieux disques ébréchés et de poèmes inachevés et de mes phrases grandiloquentes et de mon génie en attente. Dans le printemps de mon ardeur, je chérissais au fond du cœur l'espoir d'un immense bonheur.
Wow. Bravo, c'est
merci.
Très très beau.
Très beau,
il faut me les moyer. demain, il faut l'amener à la salle.
Demain, ouverture du psychodébat. Bon,
on répète l'information. C'est, on va commencer pour l'information la plus importante qui vient d'arriver directement de Tokyo. C'est gratuit.
C'est gratuit. Okay. Et on ne paye pas.
Donc c'est parfait. Gratuit et c'est à la Canebière.
Ouais. Il y a beaucoup de places ou il y aura des...
Ah, il y a plein de places.
Il y a plein de places, mais c'est quand même... Il y a 50, 60 places.
Ah, il faut arriver tôt, il faut prendre sa place.
Voilà.
Le bonheur, c'est saisir les opportunités, sa chance.
Alors, je vais vous laisser sur une petite note humoristique, parce que depuis tout à l'heure, quand je lis ce truc, ça me fait rigoler. Donc, je ne donnerai pas la réponse. Je demande à personne de le lire. C'est quelle est le son qui te donne instantanément le sourire? Quelle est le son qui te donne instantanément le sourire?
Un peu.
C'est la réponse la plus honnête.
Ça dépend si aigu, grave. Ouais, là, c'est
voilà.
Et ben voilà, c'est sur cette note.
C'est la note de la fin.
Bon, écoute, on a
le
fini. On a commencé très haut philosophiquement, et on est arrivé.
On finit dans la réalité, la basse réalité du quotidien. Mais c'est
et
beau.
Si ça fait rire.
Si ça fait rire, tant mieux.
Bien sûr. De toute façon, ça fait pas mal. Allez, je vous souhaite une belle soirée.
Belle soirée à
bonne
tous.
Soirée.
Et à bientôt.
Au revoir.
Sur Radio Galère, sûrement. Et il a dit oui. Alors à bientôt.
Merci, Sidi.
Merci.